RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
Voilà, c'était RMC, le week-end des experts, la maison, deuxième partie. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et puis à 10h, vous retrouverez les GG du sport, bien sûr. Christian Pesset, on va parler maintenant des nuisances sonores dans la maison. Comment combattre et comment essayer de limiter ces bruits qui... Alors, soit sortent de la maison, soit rentrent dans la maison.
Bon, en général, on est plus gêné par ceux qui rentrent que par ceux qui sortent, soi-même, évidemment. Mais on peut être soucieux aussi de la tranquillité
du bien-être de ses voisins.
De ses voisins. Alors, on le dit souvent, hein, le bruit est la première source de nuisance pour les Français. C'est assez... Alors, c'est pas incroyable, parce qu'effectivement, il y a du bruit partout, quoi. Sauf... Puis on peut dire aussi que parfois, l'absence de bruit peut aussi être presque une nuisance. Hein. Moi, je me souviens d'être entré dans une, une chambre sourde, c'est comme ça qu'on dit, Pascal Ozu.
Chambre anéchoïque.
Oh là là, ça c'est... vous avez senti le spécialiste là, c'est Pascal Ozu, donc qui est un grand spécialiste de la question, un acousticien dans le groupe Saint-Gobain. Il paraît qu'on... Alors, est-ce vrai? Il paraît qu'on ne peut pas tenir plus de 20 minutes dans une salle complètement sourde parce qu'on devient, barjo, quoi.
Alors, je sais pas le temps exact, mais effectivement, c'est assez inconfortable.
Ça devient une torture au bout d'un moment. Parce qu'après, on entend son propre organisme.
Oui, on entend son cœur très vite, on entend son cœur qui bat, les bruits. C'est assez incroyable.
Bien, après... Pour ceux qu'on ait faim, en plus, il y a le bruit de l'estomac, là, c'est terrible.
C'est aparté. Alors donc, Pascal Ozouf, qui a déjà pris la parole, j'ai dit qu'il était acousticien donc chez Saint-Gobain, chez Placo, notamment. Et puis, nous avons aussi avec nous Philippe Strauss. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes ingénieur chargé d'études au CIDB.
Le Centre d'information et de documentation sur le bruit.
Voilà, dans lequel il y a un site, hein, je le dis tout de suite parce que c'est vraiment une mine d'informations sur le sujet. C'est tout simplement CIDB.fr.
Bruit.fr.
Bruit.fr.
En plus.
Bruit au singulier.fr.
Donc,
et c'est effectivement une mine d'informations.
Voilà. Et vous pourrez nous parler notamment là des problèmes de voisinage. Hein, il y a une grande partie du site qui est consacrée à cela. Et puis, vous nous direz, vous prendrez la parole quand vous le souhaitez. On va avoir d'autres invités. On aura Philippe Macquart, donc qui viendra au téléphone. Ouais. Lui, c'est un spécialiste de la fenêtre. On aura aussi Jean-Marc Wecker qui nous parlera de murs anti-bruit. Et puis, on va commencer tout de suite par Antoine Pérez Munoz qui nous attend et qui est un des responsables de Bruit Parif. Bonjour, Monsieur Pérez Munoz. C'est quoi d'abord Bruit Parif?
Alors, Bruit Parif, donc c'est l'Observatoire du bruit en Île-de-France. C'est une structure à statut associatif qui a été créée en 2004 par le Conseil régional d'Île-de-France. Et on a trois missions principales qui sont l'observation, l'évaluation des niveaux de bruit dans l'environnement, l'accompagnement des collectivités et puis une troisième mission qui tourne autour de l'information et de la sensibilisation sur les questions du bruit.
D'accord. Alors, dans une agglomération comme Paris, j'imagine que vous constatez quoi? Une augmentation du bruit et de ces nuisances, ou au contraire, est-ce que soit les politiques de responsabilisation des gens ont porté leur, et peut-être des efforts techniques ont porté leurs fruits, ou il n'y a rien à faire, ça augmente toujours?
Alors, il y a deux choses. En fait, le bruit en Île-de-France, c'est en premier lieu le bruit des transports, puisqu'on a quand même un Francilien sur cinq qui est exposé à des niveaux de bruit.
Parce que là, il y a tout. Hein. Il y a la circulation, il y a les bus, il y a le métro aérien, et puis les avions aussi, pour certaines régions.
Voilà, une des particularités quand même de l'Île-de-France, c'est la problématique aéroportuaire. Deux aéroports internationaux, dont un qui fonctionne même de nuit, donc... C'est pas négligeable, même si la principale source, c'est quand même le bruit routier. Hein. Et donc, en termes de chiffres, ça donne quand même près de 2 millions d'habitants qui sont exposés à des niveaux de bruit des transports qui dépassent les valeurs réglementaires. D'accord. Alors, à côté de ça, si on s'intéresse maintenant plutôt au ressenti des populations, bon, c'est encore plus net globalement, puisque là, on est à presque 8 Franciliens sur 10 qui se déclarent gênés par le bruit à leur domicile. c'est quand même beaucoup. Alors, quand on leur demande quelle est la source de bruit qui citera en premier, c'est encore le bruit des transports qui arrive en premier, ouais. Notamment le bruit de la route, mais juste derrière et presque à égalité, il y a les bruits de voisinage. Alors, comme vous l'avez indiqué, les bruits de voisinage, c'est vaste, hein, c'est aussi bien le bruit des talons de la voisine du dessus, le café en bas de chez vous.
Qui,
la chasse d'eau, voilà, absolument, les bruits des canalisations, la souffleuse à feuilles qui passe très tôt le matin quand vous voudriez pouvoir dormir un petit peu. Non. Donc voilà, c'est un ensemble de sources qui sont peut-être plus difficiles à quantifier, mais qui impactent d'accord. très fortement le quotidien des gens. Alors pour la tendance, la question que vous me posez, alors il faut voir deux choses. Globalement, bien évidemment, la tendance à l'évolution du trafic, elle est pas à la baisse. Donc on peut dire que globalement, on peut pas trop attendre que ça baisse, que le niveau de bruit émis par les transports baisse. Par contre, et nous c'est le message qu'on veut faire passer à Bruit Paris, localement, il y a des actions qui sont à la portée relativement facilement des collectivités qui permettent à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'améliorer grandement la qualité de vie des
populations. Alors, vous avez parlé de bruit aérien notamment, ou de ce qu'on appelle, je crois, les points noirs de circulation routière ou ferroviaire. Est-ce qu'il y a des aides de ce côté-là? Comment ça marche et comment les s'il y en a, comment les demander? Est-ce qu'il y a des subventions?
Alors absolument, c'est deux cas particuliers où les travaux d'isolation acoustique peuvent être pris en charge. Alors, d'une part, comme vous l'avez dit, il y a la situation des riverains autour des aéroports qui, à condition que leur habitation soit située dans une des zones du plan de gêne sonore, hein, sans rentrer dans les détails, ouais. C'est un zonage qui correspond à des niveaux de bruit élevés à différents niveaux autour des aéroports. Alors, les travaux d'isolation acoustique peuvent être pris en charge à des pourcentages importants, hein, de l'ordre de 80% voire plus, par un fonds qui est généré par la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires.
Ah oui, c'est la TNSA, c'est ça.
La TNSA, voilà.
D'accord. Et pour les points noirs routiers, les gros carrefours, voilà, la proximité du périph ou autre.
Les points noirs de bruit, effectivement, c'est des zones critiques identifiées, hein, où on est dans des dépassements importants des niveaux de bruit réglementaires, et où là, les gestionnaires d'infrastructures routières ou ferroviaires ont l'obligation de les recenser et de les résorber. Donc là, par contre, c'est des opérations beaucoup plus lourdes qui s'inscrivent dans la durée, qui mettent des années à être monté, à être réalisé, mais si vous êtes concerné, effectivement, vous pouvez bénéficier de travaux.
C'est au niveau de par exemple aux abords du périphérique, des choses comme ça, Antoine?
Voilà, le plus récemment, par exemple, l'exemple que je peux vous donner, c'est un autour d'un nœud ferroviaire en Seine-Saint-Denis, sur les communes de Bondy ou Noisy-le-Sec, où il y a eu près de 600 logements qui ont été traités, avec d'accord. en plus des écrans anti-bruit. Donc,
et les demandes, ça se fait en préfecture?
Alors effectivement, première chose, c'est de voir si vous êtes concerné si votre domicile est effectivement peut être considéré comme point noir de bruit, et il faut consulter les sites des préfectures de votre département pour accéder à ces données-là.
Très bien, merci Antoine Pérez-Munoz de Bruit Paris.
Merci. Il est 9h19, on revient dans un instant. On parle des nuisances sonores ce matin sur RMC. Vous voulez témoigner, poser vos questions, 32-16. Attention, si vous nous joignez par mail, parce qu'on a pas mal de questions par mail, n'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. C'est important, on gagne du temps. Donc, laissez votre portable et on vous rappelle dans la foulée. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, votre maison. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
Le week-end des experts, la maison et le bruit, ce matin qui peut être véritablement un vrai drame. Hein,
oui, tout à fait, et ça crée des tensions et des drames. On verra cela tout à l'heure avec Philippe Strauss du CIDB.
Mais il y a des solutions parfois.
Hein, voilà, il y a des solutions. Oui, Pascal Ozouf, vous pourriez déjà nous dire en quelques mots, très brièvement, pour qu'on puisse passer une question tout de suite, c'est quoi le bruit?
Voilà, effectivement, donc le bruit se transmet par choc entre les molécules, pour essayer de faire simple, mais voilà, il y a la propagation se fait de cette manière-là.
C'est une onde.
C'est une onde, elle peut être donc à l'origine aérienne, donc par l'air, oui. Et ensuite il y a la solidienne, donc là c'est tout ce qui est choc, vous avez parlé tout à l'heure des talons aiguilles, c'est ce genre de bruit, les bruits solidiens, voilà.
D'accord.
Delphine est avec nous, bonjour Delphine.
Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde.
Bonjour Delphine.
On vous écoute,
Delphine. Merci de prendre ma question. Donc voilà, j'ai acheté une maison en bois, donc hors d'eau, hors d'air, en août 2014. Donc, permis de construire décembre 2011, à l'origine. Donc, elle était hors d'eau, hors d'air. Donc, c'est moi qui ai fait faire l'isolation. Donc c'est une demi-maison mitoyenne. Donc en fait, voilà. Donc moi j'ai fait faire l'isolation. On a emménagé en mars 2015. Oui. Et mon voisin l'a fait ses travaux après nous en juillet 2015. Et il a pas mis l'isolation sur le mur mitoyen. Et donc on entend les bruits. Nous on a mis une double isolation. Et il le savait, en fait, et donc lui, il a pas mis d'isolation, donc je voudrais savoir...
Quand
la
vous dites une... Voilà, quand, j'ai bien compris, quand vous dites une double isolation, vous avez fait quoi ?
Une double couche, en fait, de laine de verre.
D'accord.
Laine de roche.
D'accord, voilà. Oui, c'est pareil. Et votre question, c'est est-ce qu'il y a une réglementation que n'aurait pas respecté votre voisin ?
Voilà, parce qu'en fait, nous, on entend le bruit, donc nous, on a fait ce qu'il fallait, et j'aimerais savoir s'il y a une législation là-dessus.
Ok, on va voir ça avec Pascal Ozouf, parce que vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait surtout une isolation thermique, pour l'instant, qui a un rôle phonique aussi. Pascal, qu'est-ce que vous pouvez
faire
par rapport à la réglementation ?
Voilà, bâtiment plutôt récent, donc fait référence à la nouvelle réglementation acoustique, donc en 94. Donc elle se doit de respecter, ces bâtiments doivent respecter cette réglementation. Quelques chiffres, l'isolement entre deux logements, pièce principale, 53 dB pour l'isolement. Et donc effectivement, par rapport à ça, des solutions sont à mettre en œuvre. Et effectivement, là, par rapport à Delphine, isolation thermique et acoustique, puisqu'on peut avoir la combinaison. Donc un élément indépendant de sa structure bois qui va être placé devant, donc au niveau du mur mitoyen. Et effectivement, en fonction de l'état initial de la structure bois, eh bien il y a plus ou moins d'épaisseur de laine, plus ou moins de plaques de plâtre, mais il y a une isolation à respecter minimum. Alors, et une performance de produit ou de solution à mettre en œuvre.
Philippe Strauss du CIDB, on est typiquement là dans le conflit de voisinage déjà. Je voulais en parler un peu plus tard, mais comment obliger le voisin à respecter la réglementation A ?
Mais on est sur un principe où c'est un peu comme en circulation routière où quand il y a un accident, c'est toujours une conjonction de plusieurs problèmes. Il y a eu du verglas, vous étiez fatigué, les freins étaient pas en forme non plus. Ben en matière de bruit de voisinage, c'est pareil. Vous avez des performances acoustiques qui sont pas terribles et puis des comportements. Ben il faut qu'ils soient adaptés à ces performances acoustiques.
Et concrètement,
acoustiques.
Comment faire appliquer la réglementation ?
Donc là,
pas simple.
Là en l'occurrence. On a deux maisons juxtaposées qui devaient effectivement
être isolées
acoustiquement avec un principe de désolidarisation pour trouver cette atténuation de 53.
Très bien, Philippe Strauss, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que une fois qu'on a dit ça, si le dialogue n'est pas possible.
Là, on est sur effectivement des situations sérieuses où on se doit de se défendre. Il faut peut-être faire appel à un avocat ou un conseil juridique pour voir un petit peu
une expertise.
Quelle procédure entamer si procédure il y a.
Vous savez, il y a une citation latine si vis pacem, parabellum. Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. Ouais. Il faut parfois un petit peu sortir les dents pour
les mises en demeure.
On va revenir dans un instant. Après la météo, le trafic et les infos, on poursuit sur le bruit et les nuisances sonores à la maison. C'est jusqu'à 10h sur RMC. N'hésitez pas à réagir. 3216 ou maison@rmc.fr et laissez-nous votre numéro de téléphone. À tout de suite.
Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, votre maison sur RMC.
Christian PC.
Oui, cher François Sorel.
Attention.
Je vous écoute.
C'est l'heure de la question flash.
Oui.
En moins de 2 minutes, vous vous engagez à répondre à la question de Jeff maintenant. Vous parlez souvent de l'isolation thermique extérieure.
Oui.
Mais comment s'y retrouver, Christian ? Quelle solution préconisez-vous ? Est-ce couvert par des crédits d'impôt ? Faut-il un permis de construire ?
Oui, alors c'est cette ITE, comme on l'appelle, l'isolation thermique par l'extérieur, eh bien on pourrait en parler aussi dans le cadre du bruit, parce qu'évidemment ça participe à l'isolation aussi, enfin acoustique de la maison. Alors qu'est-ce qu'il y a comme système ? Eh bien il y a la plus classique, la plus basique, on voit souvent pratiquer, notamment sur les immeubles collectifs, c'est-à-dire on va avoir des profilés, on a de l'isolant, généralement des panneaux de police polystyrène, parfois de laine de verre, et qui sont fixés à travers donc soit par collage, soit par fixation mécanique. On a un bardage PVC, bois ou matériaux de synthèse en façade. Peut-être la moins chère, c'est justement aussi celle qui consiste à coller directement des panneaux de polystyrène, mettre un treillis métallique, mais plus souvent plastique maintenant, sur donc l'isolant, et ensuite faire un enduit en une ou deux couches. Et puis des solutions plus peut-être parfois techniquement un peu plus sophistiqué, exemple les lames d'aluminium creuse, système Miral Uniso, qui contiennent à l'intérieur du polyuréthane qui a été injecté, et on visse tout cela en façade. C'est beaucoup plus cher, c'est moins épais, et c'est très rapide à mettre en place. Alors crédit d'impôt, bien sûr, à condition de passer par un poseur RGE, reconnu garant de l'environnement. On pourrait revenir sur cette définition, et puis dans les conditions général des crédits d'impôt.
Et 32-16 pour toutes vos questions maison, on vous attend.
RMC, c'est au 32-16.
45 centimes la minute.
Et au 732-16.
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC jusqu'à 10h, votre maison. Christian Pesset, François Sorel.
Vous allez la fermer, ouais. On aimerait bien dormir.
Doucement, les enfants, vous faites trop de bruit.
Tous ces sons ont un impact et une influence sur notre corps, notre stress et notre nervosité.
Hello ! Un peu pas de bruit, s'il vous plaît !
Christian PC, vous faites trop de bruit.
Oui, c'est ça.
Non, mais franchement.
Voilà, on a reconnu la voix de Funès à la fin. Là, je me souviens de ce film. Je ne sais plus le titre, mais enfin. Nous parlons bruit ce matin.
Et de nuisances sonores avec nos sonores, invités.
Nous avons des invités. Pascal Ozouf, acousticien auprès de Saint-Gobain Habitat. Nous avons aussi Philippe Strauss, ingénieur chargé d'études au CIDB, le Centre d'information et de documentation du bruit. Alors, le bruit, oui, ça passe partout, ça passe par les murs, ça passe par les sols, mais ça passe principalement, peut-être, dans certains cas, par les fenêtres. Alors donc, ouais. Nous allons avoir Philippe Macquart en ligne, qui est délégué général de l'UFME.
Alors, juste avant d'accueillir Philippe, oui, Macquart, sachez que dans quelques instants, nous aurons aussi Sylvie, qui nous a appelé au 3216. Elle a un problème avec la piscine de son voisin qui fait du bruit.
Ça, c'est autre chose.
Mais on va avoir le témoignage de Sylvie dans un instant. Mais Philippe Macquart est avec nous, en effet.
Bonjour, Philippe.
Bonjour.
Alors, vous êtes un spécialiste de la fenêtre, Union française des menuiseries extérieures.
Tout à fait, oui.
Alors, on entend souvent parler de fenêtre acoustique, mais c'est quoi une fenêtre acoustique ?
Vous savez, une fenêtre acoustique, c'est déjà une fenêtre étanche à l'air, hein, parce que s'il y a des trous d'air, évidemment, le bruit s'y infiltre systématiquement. Donc,
d'accord.
D'abord, une bonne fenêtre acoustique, c'est déjà une fenêtre étanche.
D'accord. Ça, et du côté des vitrages ?
Alors, du côté des vitrages, on peut en effet renforcer l'acoustique des fenêtres et des baies vitrées en augmentant, je dirais, les épaisseurs relatives des différents vitrages qui composent le double vitrage. Alors, en effet, on peut aller dans des grades supérieurs d'isolation acoustique en augmentant la symétrie entre les vitrages. Donc, typiquement, quand vous achetez une fenêtre en magasin, on va vous proposer deux vitrages de 4 mm qui vont composer le double vitrage.
Ouais.
Si vous voulez augmenter les performances acoustiques de votre fenêtre, qui bien sûr devra dans tous les cas toujours être très étanche, il faudra choisir des vitrages dont un des deux sera composé d'une fenêtre plus, d'une vitre
d'une plus épaisse. Voilà.
Notamment un vitrage 4 mm en intérieur et puis peut-être 6, 8 ou 10 mm en extérieur.
D'accord.
Ou éventuellement prendre des compositions verrières qu'on appelle en feuilleté acoustique qui permettront en effet de renforcer les performances.
Et le vitrage épais, moi c'est ce que j'ai chez moi et je trouve que c'est pas mal. Je suis dans un quartier assez bruyant. J'ai un petit bout de la voie Georges Pompidou qui passe sous mes fenêtres.
Oui.
Enfin sous mes fenêtres, je suis au troisième étage quand même.
Oui.
Et je trouve que c'est pas mal. Mais ça n'a plus de caractère à ce moment-là thermique, quoi.
Alors c'est ça, c'est que un vitrage simple épais sera nécessairement acoustique par définition. Simplement, en effet, vous perdez tout ce qui est isolation thermique. Et aujourd'hui, quand on construit des bâtiments ou quand on rénove, raisonnablement, il faut toujours associer la performance thermique et la performance acoustique quand elle est nécessaire.
Et les doubles fenêtres, on en voit sur les, notamment dans les hôtels qui sont très exposés au bruit autoroutier. Est-ce que c'est intéressant et à ce moment-là, il y a quelle distance? différence entre les deux fenêtres?
Alors écoutez, en effet, les solutions dites de double fenêtre, c'est vraiment quand le bruit extérieur est extrêmement puissant. Ça permet en effet d'avoir des isolations de façade extrêmement intéressantes. C'est une bonne solution pour les hôtels, pour le tertiaire en effet, mais
moins pour le particulier
parce qu'il faut reconnaître que ça prend de l'espace et puis on perd un petit peu, et il faut le reconnaître, en transmission lumineuse. Hein. Or le propre d'une fenêtre, c'est quand même de voir clair au travers. Voilà.
Merci
beaucoup Philippe Macquart.
Je rappelle, vous êtes délégué général de l'UFME.
Sylvie est avec nous. Oui. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour messieurs. Merci d'avoir sélectionné ma question.
On vous écoute.
J'habite un petit village en province, donc un petit hameau qui est très calme. Et donc j'ai un voisin qui a fait la construction donc d'une piscine extérieure. Et son local technique est situé dans un c'est fermé. Hein, c'est un local qui est fermé, mais qui est fait en bois,
pas en dur.
Voilà. Et donc ma question est la suivante. La pompe du bruit. Dans la journée, on va dire que bon, c'est supportable parce qu'il y a quand même des bruits journaliers hein, qui peuvent être qu'on entend dans la journée. Mais par contre, où c'est très dérangeant, c'est la nuit parce que un bruit de fond en permanence. Et donc, je voulais savoir quelles étaient les techniques éventuelles par rapport à une isolation de ce local et éventuellement s'il y avait des règles à respecter par rapport aussi à cette. À ces installations, quoi. Voilà.
Philippe Strauss du CIDB, c'est la grande problématique de toute façon de toutes les pompes à chaleur, pas seulement celles des piscines. On a beaucoup d'appels sur ce sujet.
Oui, tout à fait. Le code de la santé publique est bien clair là-dessus. S'il s'agit d'un bruit de comportement, c'est un bruit de voisinage. Votre voisin, Sylvie, est vraiment censé tout faire pour ne pas occasionner un trouble, un inconvénient anormal de voisinage.
D'accord, donc on est d'abord sur le dialogue, encore une fois, quoi, pour commencer.
Bien sûr, privilégier le dialogue, éventuellement l'inviter à venir chez vous.
Oui, pour qu'il constate
un petit barbecue et puis lui faire remarquer.
Il en a conscience.
Eh bien justement.
Oui, parce qu'il y a déjà eu un dialogue, si vous voulez, avec lui on s'est rendu compte, si vous voulez, des nuisances que ça occasionnait. Donc il en a conscience. Je sais que sur le local technique est en bois, donc il a fait une isolation intérieure avec, je pense, du plateau, d'après ce qu'il m'a dit. Mais néanmoins, si vous voulez, c'est pas suffisant.
D'accord.
On entend toujours cette pompe.
Bien sûr. Voilà. Le ronronnement, Pascal Ozouf, là, il y a quand même des positionnements de pompe. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus de l'isolation, même acoustique, qui peut être faite.
Donc effectivement, par rapport à la position de la pompe et par rapport donc à Sylvie, de savoir comment elle est orientée. Mais ce que je suis surpris, c'est qu'a priori il y a une solution qui a été faite sur l'élément bois, sur son baraquement, son petit baraquement. Et s'il y avait une isolation réelle phonique. Honnêtement, c'est pas des niveaux quand même très très élevés de la pompe, donc il y a peut-être aussi un problème au niveau de l'étanchéité. Tout à l'heure, on l'a évoqué avec les fenêtres, l'étanchéité de la porte qui ferme ce petit local, et de bien vérifier le doublage qui a été mis en œuvre, parce qu'effectivement, laine minérale, laine de verre plus plaque de plâtre, généralement des faibles épaisseurs pour ce type de bruit devraient répondre à la problématique. Oui. Donc là, il y a quelque chose à creuser sur peut-être l'étanchéité au niveau de la porte et la solution qui a été mise en œuvre.
Oui, bien sûr, mais on sait qu'il y a aussi peut-être des angles de positionnement, ne pas réfléchir sur un mur, des choses comme ça.
Voilà.
C'est souvent ça. On met une pompe à 3 mètres d'un mur ou à 4 mètres d'un mur
effectivement,
et ça amplifie.
Et ça, c'est la problématique de la pompe, par exemple, à chaleur, qui va être située sur un espace plan. Et puis après, vous allez avoir un mur derrière, vous avez un coin, et là, vous allez augmenter le niveau sonore. Voilà.
D'accord.
On revient dans un instant.
Puis on va parler aussi mur anti-bruit.
Mur anti-bruit. Puis nous aurons aussi le témoignage d'Hubert qui est gêné par les sonneries toutes les heures et parfois même aux demi-heures de son voisin, visiblement, qu'il entend des sonneries. C'est un truc de dingue.
Il n'est pas gêné par les taxis.
Uber.
Voilà.
Non, mais c'est très bien. Quoique les taxis sont souvent dérangés par les Uber en ce moment.
C'est
mauvais jeu. On revient dans un instant. C'était RMC. Le week-end des experts, on parle de nuisances sonores ce matin, à tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, votre maison. RMC, le week-end des experts, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
Moins de quart, c'était RMC, le week-end des experts, et c'est la maison. Et c'est les nuisances sonores ce matin, jusqu'à 10h avant de retrouver les GG du sport.
Voilà, elles sont nombreuses, ces nuisances sonores. Et on a en ligne qui nous attend Jean-Marc Wecker, qui est président de la société CIP, qui est spécialisé dans les murs anti-bruit, dans les clôtures anti-bruit. Bonjour, monsieur Wecker.
Oui, bonjour, monsieur Pesset.
Alors, je pense que vous écoutiez, vous avez aussi peut-être là, vous allez nous expliquer ce que c'est qu'une clôture anti-bruit, qu'un mur anti-bruit. Mais justement, la personne qui avait là une nuisance de pompe à chaleur, c'est peut-être de votre ressort aussi. Alors, c'est quoi une clôture ou un mur anti-bruit? C'est constitué de quoi?
Alors, c'est constitué, il y a plusieurs choses. Il y a les panneaux qui sont absorbants. En premier, il y a une clôture anti-bruit en acier galvanisé qui peut être absorbante à 95%, à végétaliser. Ça permet d'absorber les nuisances sonores.
Ah oui, on fait pousser du lierre, par exemple, tout bêtement.
On peut faire pousser du lierre végétalisé, du jasmin ou d'autres plantes grimpantes qui permet de recouvrir le mur anti-bruit.
C'est quelle hauteur, un mur anti-bruit?
Alors, la hauteur, on peut le définir en faisant des mesures sonores sur place avec une étude technique et phonique qui permet d'avoir un dimensionnement de la clôture ou du mur anti-bruit. Suite à cette étude de faisabilité, nous garantissons un affaiblissement acoustique pour savoir si c'est réellement...
Et de quel ordre, justement, cet abaissement?
L'ordre, on peut aller de 7 ou 8 dBA d'affaiblissement acoustique,
oui,
jusqu'à 12 ou voire 15 dBA d'affaiblissement acoustique, suivant si on est très proche de la source sonore pour pouvoir absorber la nuisance.
C'est bien, Pascal Ozouf, ça, comme niveau?
Oui. Pour la problématique des écrans anti-bruit, c'est comme vous le dites souvent, c'est traité à la source. Donc, comme vient le dire Monsieur Wecker, c'est la position de l'écran par rapport à la distance.
Donc, alors, donc par exemple, le cas de cette personne qui avait une pompe à chaleur qui était gênante, est-ce qu'on peut mettre ce type d'écran pour casser le bruit?
Alors, ce que nous faisons, parce que nous avons beaucoup de demandes au niveau des pompes à chaleur ou des moteurs de piscine entre du voisinage, parce que c'est une nuisance sonore assez importante. Soit, comme disait, il faut traiter au niveau localement, c'est-à-dire très proche de la pompe à chaleur ou du moteur de piscine, en mettant des murs anti-bruit mais absorbants.
Oui.
Alors, la plupart du temps, les pompes à chaleur, elles sont placées aussi contre une façade d'un garage ou d'un immeuble ou d'une maison d'habitation. Donc, en plus, le bruit réfléchit. On met des panneaux anti-bruit absorbants sur le mur de façade et aussi autour.
D'accord.
Pour pouvoir absorber la nuisance sonore. Ça, c'est quand on peut traiter localement. Donc là, c'est très efficace.
Vous l'encapsulez, en quelque sorte.
Pas trop, oui, on l'encapsule, mais c'est surtout pour éviter la résonance. On met un panneau anti-bruit contre la façade, absorbant. Et on met au moins deux éléments, suivant le dimension, pour pouvoir absorber la nuisance sonore, pour éviter que ça réfléchisse chez le voisin. Ou sinon, on met, s'il n'y a pas le choix, nous mettons un mur anti-bruit en limite de clôture, d'accord, de séparation du voisin.
Alors, ces murs anti-bruit, on peut donner à peu près une idée du coût, par exemple. Il y a une route qui fait du bruit, je fais un mur anti-bruit, je ne sais pas, d'un mètre cinquante, deux mètres, ça coûte... Combien au linéaire?
2 mètres, ça risque de faire très court.
Oui.
Il faut surtout faire le dimensionnement. Et la plupart du temps, il faut monter au minimum 2 mètres, voire 2 mètres 50 ou 3 mètres suivant le dimensionnement.
Et donc,
ça, c'est
le coût
très important. Et le coût, ça varie de 150 euros hors taxe le mètre carré au niveau de la fourniture.
D'accord.
Et en pose, on arrive jusqu'à 250 ou 280 euros suivant le.
D'accord. Une bonne indication. Merci.
Merci.
Jean-Marc Wecker, donc de la société CIP, on vous trouve facilement sur Internet.
Et maintenant, et pour arriver jusqu'à la fin de cette émission, je vous propose deux témoignages, deux questions. Et on commence par Hubert. Bonjour Hubert.
Bonjour. Hubert Narivel, Monsieur Julien Sorel, j'ai eu le plaisir de
François.
Vous rencontrer lors d'un salon de la rénovation.
Oula,
non, ça doit être ça. C'est Christian Pesset.
Je pense
rencontré.
Que c'était plutôt Christian.
Voilà.
Ah oui, Christian Pesset, je me trompe.
Voilà, c'est pas grave.
Mais c'est pas grave.
C'est pas grave. On se ressemble beaucoup tous les deux.
Équipe,
c'est pour ça.
Il est un peu plus gros que moi, mais c'est pas grave.
Qu'est-ce qui vous arrive, Hubert? Alors, racontez-nous.
Voilà, donc j'habite dans un immeuble à grande hauteur, hein, la Tour Tokyo, dans le 13e arrondissement. Je suis au second étage, donc d'un immeuble de 30 étages.
Oui.
J'ai le bonheur d'entendre très fréquemment, quasiment toutes les heures, voire les demi-heures, une quinzaine de sonneries.
Oui.
Je pense que c'est donc une horloge électronique.
Ah oui.
Et je voudrais savoir, les voisins, soit ce n'est pas eux, soit ils n'entendent pas, soit ils ne sont pas gênés, donc j'ai pas de possibilité d'aide de leur part. Je voudrais savoir s'il existerait un matériel qui puisse localiser l'appartement générateur de ce bruit, Je sais qu'il existait une société Metravib qui fabrique un détecteur de bruit localisateur de détonation.
De détonation, mais là vous n'en êtes pas encore là, quoi. Non.
Oui.
Sauf s'il y a un drame familial, mais quand même. Messieurs, lequel d'entre vous veut intervenir, Philippe Strauss?
Oui, mais effectivement, la difficulté, c'est d'identifier la source. Donc, vous pouvez éventuellement coller votre oreille sur les murs pour essayer de déterminer l'origine, mais ça va être un petit peu compliqué. Là, hélas, en matière de recherche de bruits mystérieux comme cela, il faut faire appel à un acousticien qui, avec du matériel de
métallurgie acoustique, des instruments, des choses comme ça.
Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une prestation qui est coûteuse. C'est un peu compliqué, mais hélas, je vois pas d'autres solutions.
D'accord. Merci Hubert. Jacques. Maintenant. Alors attention, Jacques, c'est un petit peu différent. Jacques est musicien. Et oui, quand on parle de voisinage de musique, aïe.
Ça
bonjour
être,
Jacques.
Ça va être pour Pascal Ozouf, ça, je sens ça.
Bienvenue bonjour, Jacques.
Bonjour à vous deux et bonjour à RMC. Bon voilà, alors je suis musicien, j'essaie plutôt.
Donc voilà. D'accord.
J'habite un studio dans une résidence d'été, 2 étages, et je fais des gammes de saxophones et je pense que j'embête tout le monde. Enfin, j'en suis sûr même. Alors que faire?
Alors, Pascal Ozouf, ça c'est pour vous, non?
Donc, effectivement, François. Donc, là, c'est encore une fois comme la pompe à chaleur, on va traiter la source. Donc là, c'est le saxo. On a la chance, c'est pas du piano, parce qu'on a une autre problématique avec le piano, c'est les bruits solidiens.
On peut faire de la trompette bouchée.
Aussi, on peut essayer de demander à Jacques de changer. Donc là, il faut traiter là aussi également la source, et c'est ce qu'on appelle en acoustique la boîte dans la boîte. Donc dans l'espace que vous, là où vous entraînez, d'essayer de créer une boîte dans la boîte. Donc ça, c'est quelque chose de possible avec les technologies type plaque au style. Donc ossature métallique avec plaque de plâtre, là essayer de mettre effectivement une plaque de type phonique ou acoustique, donc la plaque voilà, et ça vous allez, avec bien sûr un espace des parois qui sont en place déjà, vous y mettez une laine de verre entre les deux et on va créer cette boîte.
Combien d'épaisseur?
Ça, on peut arriver à rentrer, alors suivant les dimensions de la pièce dans laquelle Jacques joue.
Je suis dans un studio.
Oui,
problème.
Voilà, exactement.
C'est-à-dire que si vous isolez ce truc-là, après vous avez que cette pièce en fait, c'est ça le problème.
Donc là, voilà, pour répondre à la question, voilà, c'est 10-15 cm d'épaisseur, et effectivement, suivant les portées, les distances entre les murs, vous êtes au maximum 4 mètres, autour de 4 mètres, pour faire quelque chose d'auto-portant. Mais ça, c'est par contre, c'est des choses possibles à réaliser.
Philippe Strauss.
Oui, je voulais dire que cette situation à laquelle Jacques est confronté, c'est typiquement des choses qu'on propose de défricher un petit peu de manière gratuite à travers une permanence de conseils en acoustique du bâtiment.
D'accord. Vous avez une permanence.
Unique en France.
Il y a un téléphone.
Permanence info bruit. Oui. Au 01 47 64 64 64.
On le mettra sur la page Facebook.
Voilà. Vous prenez rendez-vous. Bruit.fr également. Vous envoyez un message et vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez droit à 45 minutes de rendez-vous, soit téléphonique, soit en tête-à-tête.
C'est gratuit?
C'est gratuit.
Non.
Okay. Là, oui.
Alors là, vous allez avoir des demandes. Hein. Je sais pas s'il faut pas cacher votre numéro de téléphone.
Mais non. Envoyez-nous des demandes.
On va le mettre. Vous inquiétez
alors,
pas.
Avec toutes les limites d'une intervention à distance, comme ça, d'un conseil à distance, mais on défriche un petit peu la stratégie.
Oui, c'est ça. Vous commencez à donner des conseils, Jacques. Bon courage.
Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Bonne journée.
Allez, merci bonne journée à vous. Et nous on remercie Philippe Strauss, donc du CIDB, Pascal Ozouf, donc acousticien chez Saint-Gobain, Vita France, Placo, quoi, pour simplifier.
Et on se retrouve la semaine prochaine, Christian. Bien sûr, 8h-10h sur RMC, vous le savez. Le bricolage, la maison, la déco, c'est chaque samedi. Et après la maison, c'est le sport et c'est les GG du sport.
Ça fait du bruit, certains sports, hein. Ça en fait.
Messieurs, bonjour. Christian.
Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas possible, il a mangé quoi?
Mais rien, en pleine forme, c'est le début du tour de destination.
Ah, c'est pour ça.
On est content, l'équipe de France revient. Et puis on les attend, hein. Ils sont attendus, l'équipe de France, parce que France-Italie, voilà, c'est une marche facile, faut pas la rater.
S'ils se font racler par les Italiens, ça va barrer.
Pardon?
S'ils se font racler par les Italiens,
ça va barrer. Mais arrête-toi! Alors justement, c'est un bon moyen de démarrer pour Guinoves. On va en parler. Guinoves mauvaise, c'est un entraîneur craint. Hein. Est-ce qu'il faut être craint pour être un bon entraîneur? Toi qui est craint par tout le monde, c'est vrai, ici, RMC, François, est-ce que
toi,
ça t'aide?
Sauf par toi. C'est vrai que là, j'ai un peu plus de mal à te...
Parce que moi, je t'aime.
Ah, c'est pour ça.
C'est ça.
Les GG du sport dans un instant.
Quelle
et moi, j'aurai le
direct.
Plaisir de vous retrouver demain dimanche dès 6h avec Laetitia Barlerin. Portez-vous bien. Bon week-end à tous.